Voilà, alors si je tiens pas le micro, vous m'entendez quand même ou pas? Ça va? Sinon, vous levez la main et puis j'essaierai d'attendre. Alors, vous venez avec beaucoup de confiance, il y en a qui ne savent même pas de quoi je vais parler. Bon. Alors, cette année, je vais essayer de, toute l'année, de commenter cette exhortation du pape, la joie de l'évangile. Alors, éventuellement, si vous l'avez, ça vous sera peut-être plus facile de suivre ce que je vous dirai, parce que aujourd'hui, je vais prendre tout simplement le premier chapitre. Voilà. La transformation missionnaire de l'Église. Alors, peut-être un petit retour en arrière. Donc, en septembre, je vous avais dit un petit peu pourquoi il me semblait important, intéressant de lire cette lettre, cette exhortation avec vous. C'est ce que dit le pape au numéro 25. Je n'ignore pas qu'aujourd'hui les documents ne provoquent pas le même intérêt qu'à d'autres époques et qu'ils sont vite oubliés. Je les range dans la... Si vous l'avez, vous le rangez dans la bibliothèque, sinon vous l'oubliez. Cependant, je souligne que ce que je veux exprimer ici, donc dans cette lettre, a valeur de programme et des conséquences importantes. J'espère que toutes les communautés feront en sorte de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour avancer sur le chemin d'une conversion pastorale et missionnaire qui ne peut laisser les choses comme elles sont. Ce n'est pas d'une simple administration dont on a besoin. Constituons-nous dans toutes les régions de la Terre en état permanent de mission. Voilà. Alors donc, déjà il nous dit plusieurs choses, donc c'est pour ça que ça vaut la peine de l'étudier, parce que pour ainsi dire, c'est le programme de son pontificat. Alors, il a écrit une encyclique sur l'écologie. Alors, il y avait la première, mais qu'il avait héritée plus ou moins de Benoît XVI, mais qu'il a publiée en mettant sa touche personnelle. Après, il y a eu cette encyclique au mois de juin dernier sur l'écologie, mais c'est le cœur de... C'est pas l'encyclique sur l'écologie, même si ça mériterait de l'étudier. Mais c'est plus ça qui est... un peu, qui donne un peu la perspective de son pontificat. Cette façon de voir, de tout voir en fonction de l'évangélisation. Voilà. Les moyens nécessaires pour avancer sur le chemin d'une conversion pastorale et missionnaire. Alors là, on y reviendra un tout petit peu après. Voilà. Alors, dans ce... Il y a un petit paragraphe introductif à ce... Pour ce chapitre, c'est ce qu'on appelle le mandat missionnaire de Saint Matthieu. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que le mandat missionnaire, ce qu'on appelle habituellement le mandat missionnaire de Saint Matthieu. Vous avez une idée? Ah ben, je vous apprendrai au moins une chose aujourd'hui.
Vous avez fait lire comme en silence.
Oh pardon. Alors je vous pose plus de questions. Le mandat missionnaire, c'est... c'est la conclusion de l'évangile de Saint Matthieu. Alors c'est le moment de l'ascension, je ne sais pas si vous voyez, dans Saint Matthieu, chapitre 28. C'est les deux derniers versets de Saint Matthieu, 19 et 20. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà, c'est ça le mandat missionnaire. Et le pape François revient, je crois qu'il le cite au moins 6 fois dans son document. Il s'y réfère au moins 6 fois. Donc c'est pour lui, souvent le pape François aime bien revenir à l'évangile, et parce que pour nous, l'essentiel... C'est quand même d'abord la parole de Dieu, et après il y a toute la théologie qui a travaillé, mais à partir de la parole de Dieu, hein. Mais la base, c'est quand même la parole de Dieu. Donc il repart de ce mandat missionnaire. Alors peut-être que je peux commencer par voir avec vous un petit peu ce que peut signifier ce mandat missionnaire. Donc il y a quelques phrases Et alors, c'est le travail de la théologie, finalement, c'est d'essayer de comprendre la parole que le Seigneur nous a adressée pour la mettre en pratique, finalement. Donc, littéralement, le passage dit, il y a trois participes présents, là, trois. Allant de toutes les nations, faites, ça c'est un impératif, des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, les enseignant à garder tout ce que je vous ai commandé. Il y a quatre verbes dans ce mandat. J'espère que ça ne vous endort pas. Non, ça va? Il y a quatre verbes. Le verbe un petit peu phare, c'est faire des disciples. Faire. Et puis après, il y a les trois autres, c'est aller, baptiser, enseigner. Et alors, du coup, ça nous montre que ce qui est le centre, c'est quand même faire des disciples. Et puis, après, en allant, en baptisant, en enseignant. Alors, il y a un ordre dans ces quatre verbes. Déjà, Jésus nous dit, que je reprenne, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors là, on voit que il y a plusieurs temps aussi dans la mission de l'Église, on pourrait dire que par rapport au baptême, il y a une catéchèse avant le baptême qui permet de recevoir avec fruit la grâce du baptême, mais il y a encore après toute la formation après le baptême. Alors c'est votre cas aussi en venant aujourd'hui. Mais du coup, c'est comme si on prend l'image de la semence, on prépare le terrain pour que la semence puisse ait le même maximum de chances de germer dans des conditions qui soient bonnes. Et puis après, une fois que c'est semé, ben, on continue à s'occuper quand même du champ. On n'attend pas passivement la moisson. Ben, c'est pareil pour le... Donc, on baptise et on enseigne, mais l'enseignement peut précéder pour une part le baptême. Mais ça, c'est dans les quatre verbes, c'est les deux qui viennent en dernier. Et le premier, c'est « en allant ». En allant, ça se réfère à ce qu'on appelle souvent le kérigme. Allez, hein, alors, il y a tout un paragraphe qui s'intitule « Une église en sortie, en partance ». Aller, c'est vraiment aller rencontrer les gens qui ne connaissent pas encore le Jésus. Donc, c'est vraiment cette dimension d'évangélisation. Mais cette première étape de l'évangélisation qui est de rejoindre les gens qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus ou en tout cas pas qui lui ont pas encore ouvert leur cœur. Est-ce que vous avez une idée de ce que peut être le kérigme? J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais peut-être que vous avez le droit de répondre quand même, quoi qu'on dise. Donc c'est juste pour savoir si c'est la peine que je vous en dise un mot ou pas. C'est la mort et la résurrection, le kérigme. Plus exactement, c'est la proclamation de la mort et de la résurrection. C'est la proclamation de ce qui vaut la peine de se mettre à la suite de Jésus. Le kérigme, c'est vraiment le pourquoi je crois, pourquoi je vois que ça vaut la peine de se mettre de croire en Jésus. Pour les apôtres, on voit bien qu'il y a un avant et un après. La Pentecôte. Avant, bon, ils suivent Jésus, etc. Mais à partir de ce moment-là, il y a une lumière qui s'est faite dans leur esprit. Il a fallu un peu de temps encore après la résurrection pour qu'ils assimilent. Une chose est que Jésus ressuscite, une chose est que je l'assimile et que je comprenne un petit peu, enfin que j'ai une lumière qui me fait voir, mais oui, la résurrection, ça change tout. Et alors le kérigme, c'est justement la motivation qui a fait la proclamation, justement, mais de ce motif qui a fait que les apôtres ont changé leur vie. Avant la Pentecôte, on voit que Saint-Pierre retourne à la pêche. Hein, vous vous rappelez, c'est dans le chapitre 21 de Saint-Jean, je crois. Donc c'est après la résurrection. On a l'impression qu'ils sont un peu désœuvrés comme ça. Pierre dit ben, je vais à la pêche. Les autres disent bon, on va avec toi. Voilà. Ça, c'est après la résurrection, mais c'est avant la Pentecôte. Et après la Pentecôte, on ne nous dit pas que Saint-Pierre est retourné à la pêche. Alors peut-être qu'il y est allé, je ne sais pas. Mais c'est pas le, on n'a pas l'impression qu'il est désœuvré. Après, sa seule préoccupation, on a un sentiment, c'est d'aller annoncer Jésus. Tandis qu'avant la Pentecôte, bon, ça n'a pas encore fait son chemin en lui. Et le kérim, il me semble cette première annonce, mais que tous nous pouvons dire à notre manière, c'est, comment dire, qu'est-ce que Jésus a changé dans ma vie? Qu'est-ce qui vaut la peine pour moi de suivre Jésus? Ben c'est ça finalement qu'on annonce aux gens quand on va dans la rue. Ben voilà, moi le fait de connaître Jésus, ça a changé quelque chose. Et ça, c'est ce qui m'a mis en route. Le kérigme, c'est ce qui a mis, cette proclamation qui a mis les disciples en route et qui a changé quelque chose. Alors, allant, justement, c'est pour aller vers les gens, mais pour les mettre en route. Et après, fête des disciples, alors ça advient notamment par la grâce du baptême, mais qui est entouré par cette formation. Voilà, et après, justement, dans les premiers écrits, on distingue le kérim de la didaké. Le kérim, c'est vraiment une annonce un peu en concentré, mais c'est plus la motivation qui fait qu'on suit Jésus. Après la didaké, on essaie d'en savoir plus sur Jésus, c'est un enseignement plus suivi. Dans le credo, normalement, on ne fait pas d'impasse, on a une présentation organique de la foi, c'est un peu le credo, en quelque sorte. Voilà. Ça va jusqu'ici? Bon. Alors, de ce fait, le pape François revient à ce mandat missionnaire, c'est qu'on voit que dans l'Église catholique, peut-être on a plus insisté sur le fait de préparer au sacrement et de la catéchèse aussi après les sacrements, mais peut-être la dimension d'évangélisation était moins présente. Le fait de baptiser et observer tout ce que je vous ai prescrit, voilà, ça, grosso modo, ça se faisait bien dans les paroisses. Mais avant, le fait aller donc, ça c'est peut-être une dimension qui était moins présente. Alors certainement le pape, quand il revient à cette parole de l'Écriture, c'est pour nous attirer l'attention aussi sur ce aller donc. Et ce aller donc. C'est le kérigme, hein, c'est vrai qu'à partir du moment de la Pentecôte, avant les apôtres n'ont pas reçu cette force d'en haut, comme en parle Saint-Luc, et donc du coup ils restent encore chez eux. Mais justement, donc ce aller donc, ça suppose aussi d'avoir fait une certaine expérience de l'Esprit Saint qui nous donne les mots aussi, qui nous permet d'annoncer Jésus. Alors donc ça c'est ce petit paragraphe 19, je ne sais pas s'il y en a qui ont le texte, mais c'est le numéro 19, grosso modo que j'ai essayé de vous commenter. Après donc il y a 5 parties, donc je vais vous les énumérer. Il y a une église en sortie, alors c'est une expression qui revient souvent sur les lèvres du pape François. Après une pastorale en conversion, après à partir du cœur de l'évangile. Quatrième chose, la mission qui s'incarne dans les limites humaines. Vous voulez que... On va faire une à la fois. Vous voulez que je les écrive toutes les 5? Mais j'écris mal en plus. Je trouve tous les alibis. Alors, en tout cas, le premier, ce sera une église en sortie. Et puis, je vous signalerai bien quand je passerai d'un point à un autre. Une église en sortie. Il y en aura 5, hein, au total. C'est la première, mais il y revient à la fin. Mais en sortie, c'est la première. Oui, c'est le premier point. Une église en sortie, en partance. Donc c'est les numéros 20 à 24. Alors là, on a plusieurs mots chers au pape François qu'on entend. Il n'a pas peur de se répéter, hein, parce que je pense que c'est un bon enseignant, ou comme les parents à leurs enfants, ils pourraient répéter mille fois les choses pour que ça, un jour, ça rentre un peu. Bon, être en sortie, ou quand il parle des périphéries existentielles, ou l'autoréférentialité, ça, c'est des mots. La première fois qu'on l'entend, on se dit qu'est-ce que c'est que cette histoire-là. C'est finalement le fait d'être un peu centré sur soi-même, hein, c'est ça, globalement. Le fait de la rencontre, ça, c'est des mots qui reviennent très souvent dans, et qu'on retrouve dans cette idée d'une église en sortie, en partance. Alors, le verbe sortir, on le trouve dans l'évangile. Par exemple, au début de l'évangile de saint Marc, c'est assez intéressant. Alors, de différentes manières, mais quand je prends juste au chapitre 1. Donc, on est au début de l'évangile. Et on voit à la fois que Jésus sort, son premier lieu de sortie, et je trouve que c'est intéressant de l'écouter, c'est pas d'abord d'aller vers les gens, c'est d'aller vers son Père. Le matin, bien avant le jour, il se leva, sortit, et s'en alla dans un lieu désert, et là il priait. Et alors, je trouve que c'est intéressant que sortir, c'est pas d'abord, c'est pas sortir pour sortir. Sortir, c'est toujours pour rencontrer dans l'esprit du pape François. Et la première sortie que Jésus fait, si on peut dire, d'abord il est venu d'auprès du Père, il est sorti du sein du Père, si on peut. Je sais pas, on peut peut-être pas le dire exactement comme ça, mais en tout cas, il est venu nous rencontrer. Il est sorti, mais pour rencontrer. Et alors, donc, c'est la première chose que fait Jésus, mais aussi, nous, dans notre prière, la prière, c'est pas se concentrer, c'est se décentrer, on pourrait dire. C'est pas se regarder le nombril, la prière. Sinon, on se rend compte soi-même, et puis vous vous rappelez le pharisien, je te rends grâce, je ne suis pas comme les autres, et tout ça, mais finalement, il ne se regarde que lui-même pendant ce temps-là. Tandis que la prière, c'est sortir pour aller à la rencontre de Dieu, la prière. Hein, c'est pas, le temps qu'on reste centré sur soi-même, on n'est pas vraiment dans la prière. C'est pour ça que dans Notre Père, le premier mouvement du Notre Père, c'est plutôt dans le registre de la louange. Dans la louange, on sort de soi-même pour regarder Dieu, pour contempler Dieu. Alors, mais après, donc, les apôtres le cherchent, mais qu'est-ce qu'il est parti faire? Et alors, l'ayant trouvé, ils le poursuivirent, dit saint Marc. Et l'ayant trouvé, ils lui disent, tout le monde te cherche. Et alors, qu'est-ce que Jésus répond? Allons ailleurs. Hein, avant, il a guéri sa belle-mère, la belle-mère de Simon. Et puis, il a fait pas mal de guérisons. Donc, tout le monde le cherche pour se faire guérir. Mais donc, après, plutôt que... C'est très instructif, je trouve. Jésus pourrait dire, bon, voilà, j'ai du succès, je reste ici et puis je laisse les gens venir à moi. De toute façon, avec le bouche à oreille, ça marchera bien et puis les gens viendront, etc. Mais le réflexe de Jésus, c'est « Allons ailleurs, dans les bourgs voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il s'en alla à travers toute la Galilée, prêchant dans leur synagogue et chassant les démons. Alors ça, c'est les versets, chapitre 1, versets 35 à 39. Cette sortie, alors, je peux vous citer le père Chevrier. Voilà ce qu'il disait. Il ne s'agit pas de se caserner dans une maison, un presbytère, et de ne s'occuper souvent qu'à des riens, des bêtises ou des bavardages. Il faut aujourd'hui des hommes et des chrétiens d'action qui instruisent le peuple et exercent la charité dans le monde. Sortir. Le pape a repris ce thème de la sortie aussi dans le message pour les vocations. Je ne sais pas si vous avez la journée pour les vocations, ce mois d'avril, le quatrième dimanche de Pâques, si mes souvenirs sont bons. Et alors, il a parlé de la sortie, mais avec un autre mot aussi, l'exode. Et voilà ce qu'il dit. Quand nous entendons la parole exode, notre pensée va immédiatement au début de la merveilleuse histoire d'amour entre Dieu et le peuple de ses enfants. Alors donc, dans l'exode, c'est justement le passage de l'esclavage à la liberté, de la terre d'esclavage à la terre promise. Mais quelque part, ça reste pour nous, c'est la Pâque, c'est ce passage aussi que nous sommes appelés à faire. Et voilà ce qu'il ajoute. Croire veut dire se laisser soi-même, sortir du confort et de la rigidité du moi pour centrer notre vie en Jésus-Christ. Et il cite Benoît XVI qui disait, alors il parle de l'amour. La vocation chrétienne est surtout un appel d'amour qui attire et renvoie au-delà de soi-même, décentre la personne, amorçant un exode permanent allant du « je enfermé sur lui-même » vers sa libération dans le don de soi, et précisément ainsi vers la découverte de soi-même, plus encore vers la découverte de Dieu. Donc, c'est sorti, il y a ce mot d'exode. L'exode, il y a une connotation un peu pénible. L'exode, a priori, et sortir de soi-même, ça demande un effort. Ce n'est pas forcément quelque chose qui nous est facile. Voilà ce que dit encore le pape François. L'exode consiste en une attitude toujours renouvelée de conversion et de transformation, dans le fait de rester toujours en chemin, de passer de la mort à la vie, ainsi que nous le célébrons dans toute la liturgie. C'est le dynamisme pascal. Alors, le pape François revient toujours sur ce thème de la sortie, de l'exode. Il en parlait aussi aux religieux dans la lettre qu'il a écrite pour l'année de la vie consacrée. Alors, il disait entre autres, je ne peux pas tout vous lire, mais ne vous repliez pas sur vous-même, ne vous laissez pas asphyxier par les petites disputes de maison. Ici, ça n'arrive jamais. Ne restez pas prisonnier de vos problèmes. Ils se résoudront si vous allez dehors aider les autres à résoudre leurs problèmes et annoncer la bonne nouvelle. Vous trouverez la vie en donnant la vie, l'espérance en donnant l'espérance, l'amour en aimant. Hein, toujours ce mouvement d'exode, de sortie de soi. Donc, l'exode, c'est, encore une fois, n'a pas sa finalité en lui-même. On ne sort pas pour sortir, juste parce qu'on ne veut pas rester enfermé. Voilà. C'est pour rencontrer. Et alors, le pape aime beaucoup ce thème de la rencontre, pas simplement comme un thème abstrait, il aime bien aller rencontrer les gens. Pour lui, c'est pénible d'être enfermé dans le Vatican. L'autre jour, il a voulu aller acheter lui-même ses lunettes. Donc, il est allé dans un coin de Rome. Alors, bien sûr, il y avait quand même quelques personnes pour l'accompagner, mais... Il a du mal à rester enfermé, mais aussi peut-être parce que comme Argentin, la rencontre est aussi peut-être plus importante, certainement plus importante que pour un Picard. Donc, vous croyez pas ? Je suis content de vous rencontrer. Hein. Mais donc, en tout cas, voilà. L'évangile qui évangélise sort à la rencontre de l'homme. Oui, ou encore autre chose. J'attends encore de vous ce que je demande à tous les membres de l'Église, sortir de soi-même pour aller aux périphéries existentielles. C'est une humanité entière qui attend, des personnes qui ont perdu toute espérance, des familles en difficulté, des enfants abandonnés, des jeunes auxquels tout avenir est fermé par avance, des malades et personnes âgées abandonnées, des riches rassasiés de biens et qui ont le cœur vide. Hommes et femmes en recherche de sens de la vie assoiffés du divin. Voilà, toujours, c'est un thème récurrent hein, chez le pape François, ce thème de la sortie. Alors, là, donc, c'est la premier chapitre. Ça commence par une église en sortie et en partance. Et le dernier paragraphe de toute cette partie, ça doit être le numéro 49. C'est encore ça. Sortons pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ. Je répète ici pour toute l'Église ce que j'ai dit de nombreuses fois aux prêtres et laïcs de Buenos Aires. Je préfère une Église accidentée, blessée, sale pour être sortie par les chemins, plutôt qu'une Église malade de la fermeture et du confort, de s'accrocher à ses propres sécurités. Je ne veux pas une Église préoccupée d'être le centre et qui finit renfermée dans un enchevêtrement de fixation et de procédure. Si quelque chose doit saintement nous préoccuper et inquiéter notre existence, c'est que tant de nos frères vivent sans la force, la lumière et la consolation de l'amitié de Jésus-Christ. Sans une communauté de foi qui les accueille, sans un horizon de sens et de vie. Plus que la peur de se tromper, j'espère que nous anime la peur de nous renfermer dans des structures qui nous donne une fausse protection, dans les normes qui nous transforment en juges implacables, dans les habitudes où nous nous sentons tranquilles, alors que dehors, il y a une multitude affamée, et Jésus qui nous répète sans arrêt, donnez-leur vous-même à manger. Donc sortir, parce qu'il y a des gens qui ont besoin, donc restez pas enfermés. Ça, c'est le paragraphe 49. Voilà. On y reviendra. Donc, je passe à un autre paragraphe. Là, c'était le numéro 20. Certains paragraphes, j'irai beaucoup plus vite. Donc, après, c'est le 21, qui est plus consacré à la joie. Alors, je crois que Père Maximilien vous en a parlé la dernière fois. Alors, là encore, ce n'est pas une théorie. Alors, on trouve la joie, par exemple, vous trouvez dans Saint-Luc, au chapitre 10, ou pas seulement le chapitre 10, mais entre autres, la joie est souvent liée, justement, à l'évangélisation. Jésus envoie les 72 disciples, et ils reviennent tout joyeux. Et ce verset 17, Saint-Luc 10, 17, les 72 revinrent tout joyeux, disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Et après, donc, voilà. Mais, donc, on le voit dans la parole de Dieu, mais on le voit aussi dans les actes des apôtres, c'est Saint-Luc, on l'appelle l'évangéliste de la joie, parce que, mais c'est celui aussi qui nous décrit les débuts de l'Église dans les actes des apôtres et la note de joie y est très présente. Et alors c'est... voilà, donc dans cette... alors oui, le pape se réfère pas mal à tout ça, mais il dit « Cette joie a toujours la dynamique de l'exode et du don. » Du fait de sortir de soi, de marcher et de semer toujours de nouveau, toujours plus loin. On voit que la joie, ça va mal avec le fait d'être trop renfermé sur soi-même, sur ses problèmes et tout ça. Autant la tristesse a tendance à nous fermer sur nous-mêmes, autant la joie a plutôt tendance à nous ouvrir. Quand vous êtes heureux, vous avez envie de le dire à quelqu'un, de toute façon, en plus, c'est... Mais tandis que bon, la tristesse, on a tendance à s'enfermer sur soi-même. Et alors quelque chose qui est très présent, c'est que cette joie, donc, elle nous pousse à aller plus loin. C'est ce que je vous ai cité tout à l'heure. Allons ailleurs dans les bourgs voisins afin que j'y prêche aussi. Et la joie a toujours la dynamique de l'exode et du don, du fait de sortir de soi et de marcher et de semer toujours de nouveau, toujours plus loin. Le pape ne veut pas qu'on s'arrête en chemin, mais qu'on arrête toujours plus loin, qu'on aille toujours plus loin. C'est d'ailleurs ça qui a donné le titre de la lettre, hein, la joie de l'évangile. Donc il le trouve dans l'écriture, mais il le trouve dans sa propre expérience. C'est pas le pape François, c'est pas un idéologue, voilà, qui réfléchit sur des papiers et des théories. Hein. C'est quelque chose qu'il a expérimenté. Dans ce fait d'aller toujours plus loin, on peut reconnaître, je ne sais pas si vous savez ce que saint Benoît dit de la vie consacrée. Il dit que la vie consacrée, c'est une vie de conversion. Ce n'est pas une vie où on est parfait. C'est une vie où on essaie de progresser. Et alors c'est aussi cette idée-là que saint Benoît dit, à partir du moment où vous arrêtez de vouloir progresser, vous n'avez plus votre place dans la vie consacrée. Et je trouve que c'est intéressant, ce fait d'aller toujours plus loin, de ne pas s'arrêter en cours de route, mais d'avoir ce dynamisme de continuer la route, et ce qui est aussi source de joie. Mais à partir du moment où on s'arrête, voilà, un peu comme Élie, vous vous rappelez cette image d'Élie. C'était pourtant un prophète haut en couleur. Là, il y a des gens qui viennent l'arrêter, ils demandent au feu du ciel de tomber sur eux, ils sont carbonisés sur place, et puis bon, finalement il va voir le roi, il intercède pour qu'il y ait de la pluie, et puis après il égorge 450 prophètes de Baal, enfin vous connaissez tous ces, voilà. Et après la reine Jézabel, pas très contente, le fait poursuivre pour le... Alors là, il a un moment de dépression, on pourrait dire. Il s'en va. Il dit, bon, ma vie ne vaut pas mieux que mes pères. Il s'arrête sous un genou. Il veut mourir. Et alors, c'est le Seigneur qui l'appelle à ce moment-là à aller plus loin. Non, reste pas comme ça. Voilà. Et dans notre vie, ça peut arriver des moments où... Voilà. Le tonus baisse, mais voilà. Nous sommes appelés à poursuivre la route. Numéro 22, donc, c'est sur la parole. La parole a en soi un potentiel que nous ne pouvons pas prévoir. Donc, on voit souvent, alors dans l'Évangile, mais aussi saint Paul qui nous dit, ben voilà, la semence, elle a son dynamisme en elle-même. C'est pas vous qui faites croître alors vous aidez bien sûr, vous arrosez, ou il en parle, saint Paul, quand il parle d'Apollos, etc., en disant, mais qu'est-ce qui donne la croissance? C'est pas Paul, c'est pas Apollos, c'est Dieu qui donne la croissance. Alors bien sûr, Paul, Apollos, ils font ce qu'il faut pour arroser, mais alors pour l'évangélisation, c'est aussi bien de toujours se rappeler que c'est Dieu qui donne la croissance, c'est pas nous qui... Voilà, il y a quelque chose qui nous dépasse. Dans la parabole du semeur, on pourrait penser aussi que le semeur, il est un peu maladroit, parce qu'il y en a qui tombent dans les ronces, il y en a qui tombent sur le chemin, tout ça. Il faudrait rationaliser un peu les choses, qui ne sèment que dans la bonne terre, tant qu'à faire. Mais c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que Dieu, il se décourage... devant personne, même si certains ont le cœur apparemment dur comme pierre, ben voilà, peut-être que Dieu veut pas faire de jugement a priori en disant ces gens-là ne n'accueilleront pas ma parole. Et aussi, quand on va dans l'évangélisation, c'est très intéressant parce que il y a différentes manières d'évangélisation, mais quand on est dans la rue, automatiquement, je ne sais pas comment vous faites, mais quand on voit quelqu'un arriver, vous faites une petite idée, ah, lui, il a peut-être le profil à accueillir ou tout ça. Et de fait, on voit qu'on se trompe très souvent. Il y a des gens qui, dans la manière de s'habiller ou de, je ne sais pas, on dit, oh là, bon, allez, je me risque quand même. Et finalement, c'est ces gens qui ouvrent leur cœur, tandis que des gens dont on pourrait imaginer qu'ils vont à la messe tous les dimanches, non, ils n'ouvrent pas leur cœur. Donc Dieu s'aime partout et c'est sa parole qui peut agir. Alors à nous d'avoir confiance en sa parole. Alors je vais quand même prendre le numéro 24. Je saute le numéro du 23. Le titre de ce numéro 24, c'est « Prendre l'initiative, s'impliquer, accompagner, porter du fruit et fêter ». Il prend 5 verbes, il aime souvent prendre... Encore une fois, ce fait de sortir... Une église en sortie en partance, c'est prendre l'initiative aussi. Pas attendre que les gens viennent jusqu'à nous. Je pense que ça, on le voit de multiples manières dans notre vie, de prendre l'initiative. Je le vois dans la vie communautaire. Ça demande presque tous les jours de reprendre l'initiative, de rencontrer les autres... Mais en famille, c'est pareil, hein. Parce que assez facilement, on se décourage. Il fera toujours comme ça. Mais de fait, on voit quand on prend l'initiative, ça porte du fruit aussi. Mais si on ne prend pas l'initiative au point de départ, la situation risque pas beaucoup de changer. Mais ça nous coûte, hein, d'avoir l'impression d'être un peu locomotive, et puis voilà. Mais ça porte du fruit. C'est le cardinal Martini qui dit ça à propos de l'éducation, en disant que l'éducation, c'est pas toujours facile. Mais en tout cas, une chose est sûre, si vous ne semez pas, vous ne risquez pas d'avoir une récolte. Alors on sème, après, advienne. c'est ça dans l'éducation, on sème, après, la personne a sa liberté, etc. Mais pareil, là, donc ces cinq moments, prendre l'initiative, ça nous coûte prendre l'initiative pour aller à la rencontre. Après, il parle de s'impliquer. S'impliquer, ça veut dire... je vous lis ce qu'il dit. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Le Seigneur s'implique et implique les siens en se mettant à genoux devant les autres pour les laver. La communauté évangélisatrice, par ses œuvres et ses gestes, se met dans la vie quotidienne des autres. Elle raccourcit les distances. Elle s'abaisse jusqu'à l'humiliation, si c'est nécessaire, et assume la vie humaine, touchant la chair souffrante du Christ dans le peuple. Voilà, s'impliquer, c'est ne pas rester de loin, mais se rapprocher des gens et se rapprocher de ce qui les préoccupe, de ce qui les fait souffrir, etc. Prendre l'initiative, s'impliquer, accompagner. Là, c'est plus l'aspect du temps, de la patience. Accompagner, ça ne se fait pas en un jour. Elle accompagne l'humanité en tous ses processus, aussi durs et prolongés qu'ils puissent être. Elle connaît les longues attentes et la patience apostolique. Donc ça, c'est prendre l'initiative, s'impliquer, accompagner, porter du fruit, le quatrième. Je trouve que c'est intéressant, il dit... La communauté évangélisatrice est toujours attentive aux fruits, parce que le Seigneur la veut féconde. Alors, c'est pas contradictoire avec une gratuité. Bien sûr qu'on sème le grain, mais on désire aussi qu'il y ait du fruit. Si, et quel, alors, justement, on verra dans le paragraphe suivant, quand il parle de conversion pastorale, la conversion pastorale, on regarde aussi ce qui porte du fruit actuellement, peut-être tel ou tel ministère qui porte du fruit ou tel ministère qui ne porte pas de fruit. Donc il y a aussi la place de la relecture pour voir ce qui porte du fruit. Donc ce n'est pas contradictoire entre la gratuité et le fait quand même de regarder si ça porte du fruit ou pas. Parce que on peut pas une journée donc 24 heures, donc il ne faut pas tomber dans le piège de l'efficacité à tout prix, mais en même temps, il faut regarder si ça porte du fruit. Et le cinquième verbe, c'est fêter. Je trouve intéressant qu'est-ce que ça veut dire fêter ? Ça veut dire que sitôt qu'on voit un petit fruit, on s'en réjouit. En même temps, il y a cette dimension de toujours aller vouloir plus loin, vouloir aller toujours plus loin, voilà, pas s'arrêter en cours de route, mais en même temps de cueillir les fruits qui sont déjà là. Parce qu'on a besoin de voir quelques fruits pour aller plus loin aussi. Ça nous fait du bien aussi. Alors c'est ça, le fait de fêter, c'est le fait de voir les fruits, même si... Alors je vous lis ce qu'il dit... Elle célèbre la communauté évangélisatrice, célèbre et fête chaque petite victoire, chaque pas en avant dans l'évangélisation. L'évangélisation joyeuse se fait beauté dans la liturgie, dans l'exigence quotidienne de faire progresser le bien. Voilà. Le fait de rendre grâce aussi, de prendre ce temps pour rendre grâce pour